bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 23 septembre 2015. Il est 14h04 à la pendule de Radio Canut. Christophe Rollin au micro, Gérald est également présent et nous avons même des invités, plusieurs aujourd'hui, Martin et Ombre, qui vont tous les deux nous parler de choses un peu différentes. Ou alors Gérald trouvera un lien. Nous allons parler d'art et de musique. D'abord musique, puisque prima la musica, dopo le parole. Voilà, on en parle toujours. Nous commençons donc en musique avec d'ailleurs, puisque c'est un choix de Martin, nous commençons avec un couple infernal. Est-il question de Martin et d'Ombre? Mais ce sera peut-être la matière à une première question. Comme d'habitude, tous les mercredis, l'émission 74e aujourd'hui, 75e aujourd'hui. D'ailleurs, Gérald, nous sommes en synchronisation avec le 1, puisqu'ils en sont au 75e numéro. Eux ne se sont pas arrêtés depuis qu'ils ont commencé. Nous, on a commencé un petit peu avant. Donc voilà, 75e numéro également du 1. Gérald le dira peut-être aujourd'hui. Il est question du pape, je crois. Voilà. Vous êtes bien sur Radio Canut, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous nous écoutez sur internet radiocanut.org.
D'un couple et son cirque infernal revenant d'une tournée en enfer. Le Tibet est un gros balèze surgissant d'une piste de braise pour se lancer dans des crotales. Puis les manger par dizaines en lançant des râles de haine, en tordant des barres de métal arrachées à une cage en flammes. On pouvait voir sur son biceps des tatouages de cœurs sanglants qui le montraient en pleurant aux femmes prêtes à lui donner leur âme.
La fille était du genre superbe, surgissant là sur son trapèze au milieu des gerbes d'étoiles. Le corps moulé par des paillettes, elle se lançait dans des abîmes au milieu des tirs de mitraille. Par des ailes immenses, elle volait dans une danse, dans des arabesques des trans qui vous auraient fait croire au ciel. C'était un couple extraordinaire, revenant du tournée aux enfers, pour faire trembler petits et grands, pour terroriser les enfants. Eux, ils mangeaient vraiment des clowns, leurs ours les appelaient patrons. Et si vous preniez votre billet, vous n'étiez jamais remboursé.
Il faut pas déconner, madame.
Quand elle avançait toute gracile, en suspension sur son fil, en tenant deux énormes lames, tout en tirant bien fort la langue, les hommes serraient bien fort les jambes, de peur de faire couper le sésame.
L'homme la regardait immobile, croisant les bras d'un air viril, le pied posé sur un lion, puis il avança d'un pas lourd. Tandis que tapaient les tambours, il se glissa dans un canon qu'il envoya dans une flamme, la rejoindre là-haut sur le fil.
Et pour leur numéro final, qui bien sûr leur sera fatal, ils s'enlacèrent tout tendrement et se jetèrent du chapiteau au milieu des cris des bravos pour s'éventrer sur des couteaux. Et dans un grand rire sardonique, la terre s'ouvrit, quelle folie lyrique. Car ce grand couple extraordinaire repartit tourner en enfer. On est mieux payé en enfer.
Thank you.
toujours des erreurs. Et là, par exemple, tout à l'heure, en introduisant l'émission, j'ai parlé de Martin tout court. Et non, Martin, s'il est seul au micro d'ailleurs, pourra-t-il bien parler dans son micro? S'il est seul aujourd'hui, en fait, Martin est à la tête d'un groupe.
Il n'est jamais seul.
Il n'est jamais seul. Martin est dans un groupe qui s'appelle d'ailleurs Martin et ses antécédents. Je laisse Martin se présenter. Et auditeur, rappelez-vous, il est déjà venu à l'émission numéro 5. Je crois bien que c'était le mercredi 19 juin 2013. Donc ça remonte.
On écoute sur le blog de Spectaculaire. Si nos auditeurs ne sont pas fidèles, bonjour chers auditeurs, nos invités en tout cas le sont.
Oui.
N'est-ce pas Martin ?
Tout à fait.
Bonjour Martin, une nouvelle présentation, ouais, un petit peu, quelques éléments biographiques.
Antécédents, c'est un groupe de chansons françaises qui doit commencer à avoir 20 ans au compteur, hein, autant ne pas se le cacher. Et puis là, on refait un disque. Alors, il y a eu plusieurs spectacles dont on n'a pas fait de disque parce que c'est assez compliqué de faire des disques. Et puis là, on a fait tout un spectacle de duo avec une chanteuse qui s'appelle Clara Bauer, qui vient de la compagnie Hugo Mina. Pour ceux qui connaissaient, c'est des joueurs de
d'orgue de barbarie, très connus sur les pentes.
Donc elle vient de chez Hugo Mina et puis on a composé tout un spectacle autour du concept garçon-fille, masculin-féminin. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, donc c'est que des duos. Et on explore un peu le spectre de toutes les relations masculines-féminines qui peuvent se passer. Donc ça va du comique à l'étrange, au sympathique.
Le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple.
Alors là, le premier morceau, là, c'est un couple forain. Donc là, c'est un peu étrange. C'est un couple un peu baroque. Complètement éclaté. En fait, ils viennent de l'enfer. Ils font une tournée de cirque sur Terre. Et comme ils sont pas assez payés sur Terre, ils retournent en enfer à la fin. Parce que là, on peut vraiment se faire du pognon en enfer. C'est un message un peu édifiant. C'était pas mal de commencer l'album avec ça. Et on a composé les chansons. Alors on avait une façon de travailler assez particulière. C'est que moi je travaille beaucoup avec le tarot de Marseille. Donc pour écrire les chansons, on faisait un tirage de tarot de Marseille. On mettait trois cartes et on racontait des histoires avec les trois cartes. Donc le couple infernal, il devait certainement y avoir la carte du diable. Il y a une chanson qui s'appelle le tribunal des amoureux. Il devait certainement y avoir la justice et les amoureux. Il y a une chanson qui s'appelle la femme au chien. Mmh. Et pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, la carte de la force. La carte numéro 11, c'est une femme qui tient un chien, techniquement une chienne, mais qui tient un chien, la gueule ouverte. Donc voilà, il y a beaucoup de références un peu codées au tarot de Marseille. Et puis c'est vraiment un disque qui est écrit à quatre mains. C'est la première fois que je fais ça dans les textes. D'habitude, c'est moi qui écris les textes tout seul. Mais là, c'est vraiment une collaboration avec Clara. Où moi j'étais vraiment au pupitre, j'écrivais, et je lui demandais son avis sur les histoires, donc elle faisait évoluer l'histoire, des fois elle me donnait des rimes. On a vraiment créé ensemble, c'était vraiment intéressant, c'est une vraie collaboration.
Et c'est un concept intéressant, hein, l'écriture sous contrainte, ça rappelle Oulipo, ça rappelle Mountain College, les spectacles de danse avec le tirage de cartes ou de yiking en ligne.
Ah oui?
Ouais, des possibilités, Cunningham a fait ça.
Je sais qu'il y a un magicien qui fait ça aussi avec le tarot.
Beaucoup d'artistes se donnent des contraintes. Et là, la contrainte du tarot, je ne sais pas si le concept avait déjà été utilisé, mais...
Bah, c'est pas tant une contrainte qu'une aide, hein.
Bah oui, dans toute contrainte. La contrainte est d'abord là pour aider à créer.
Ouais, bah ça a bien fonctionné, donc je suis content. Donc on a décidé de faire un disque. Et on a invité plein de musiciens. Il y a une vingtaine de musiciens qui viennent. Il y a une section cuivre qui a été arrangée par Nicolas Sidorov, qui était dans Bisgoulache, pour ceux qui connaissaient.
Oui, aussi.
Il y a Frédéric Aurier du Quatuor Bella qui est revenu. Il avait fait le disque avec nous, Histoire en forme d'infini, avec un quatuor de musique contemporaine. Il revient. Il y a trois sections dans ce disque. On a fait quatre morceaux avec un groupe de musique traditionnelle qui s'appelle le Fil d'Ariane, qui fait la musique des Balkans. Ils nous ont arrangé quatre morceaux. J'ai rappelé aussi l'arrière-band des musiciens classiques aussi pour qu'ils viennent travailler avec nous. Et la section pub rock avec les Channels. Basse batterie, ce qu'on a écouté, c'est la section pub rock, et c'est notre groupe de scène aussi. C'est avec celui, on joue aux Zèbres jeudi soir pour ceux qui veulent venir.
Oui, on rappellera tout ça.
Et c'est avec les Channels, donc c'est notre groupe de scène aussi. On a quatre morceaux avec les Channels, basse batterie.
Toujours très bien entouré par plein de musiciens qui viennent de tous horizons.
Toujours.
C'est la loi du genre.
C'est... Écoute, quand on fait un disque, c'est tellement dur de faire un disque. On a vraiment essayé de faire une grosse production.
Qui se vendra pas en plus ? Qui sera diffusé ou pas ?
Alors, on va faire. Là, on a fini les enregistrements. Il faut que les gens viennent sur Facebook et se mettent sur Martin et ses antécédents. On va faire un Kiss Kiss Bang Bang.
Ah, c'est très à la mode. Ça marche.
Donc, on a fait déjà beaucoup de prises de son et de mixage. Et après, on va avoir besoin de l'argent pour faire le master, les impressions du CD. Donc, on va faire un Kiss Kiss Bang Bang avec plein de goodies, plein de trucs. Ça va être formidable.
Ah, goodies,
c'est vraiment participer à une aventure.
Eh ben oui. Là, il faut être de son temps, hein. Bah, et il y a eu un petit concert quand même avant.
On en a fait plein des concerts.
Bah, j'en avais vu un personnellement dans une antre de tapissier en duo où cette fois Martin était au piano avec.
Oui, je suis au piano sur ce spectacle. Ouais.
Et au chant.
Et au chant.
Forcément.
Clara au chant et les Channels, basse, batterie. Et puis là, on joue en quatuor.
Non, vous étiez que tous les deux. Il n'y avait même pas de batteur ou de caisse claire.
Alors maintenant, il y a une basse et une batterie quand ils sont disponibles, parce que d'accord. Les Channels sont très pris.
Alors, ils sont souvent là quand même. On pourrait penser que ce début d'émission, là, c'est une grande conversation à bâton rompu et c'est pas du tout construit, c'est absolument n'importe quoi qui est raconté. Pas du tout. Il y a une construction, à savoir, Martin est en train de respecter tout à fait la règle d'or, non? Le nombre d'or, je ne sais plus pour l'émission spectaculaire des mercredis. En trois temps, le premier temps, c'est présentation de l'invité avec rappel du passé, les inspirations, des choses comme ça. Et Martin vient de l'évoquer, le
là,
tarot.
C'est l'émission 5.
Le tarot, donc, est une, oui, effectivement, je suis en train de plaisanter. Parce que ça vire un peu à la conversation, on bavarde. Voilà. Non, mais il y a tout de même quand même, voilà, des sources d'inspiration qui ont été lancées. Le tarot de Marseille. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'est le tarot de Marseille. Il est vraiment différent du tarot général ou du tarot standard.
Alors, le tarot de Marseille, c'est le tarot le plus ancien, puisque les plus vieux jeux qui sont peints à la main et dont on tire, c'est la Renaissance italienne. C'est les plus vieux jeux qu'on a qui sont peints à la main. Alors, le tarot de Marseille est un peu la matrice de tous les jeux de cartes, en fait. Hein. C'est lui le plus original. Mmh. Et le jeu de tarot classique est inspiré du tarot de Marseille. C'est la même construction avec les arcanes mineures, majeures, les atouts, le 21, le petit, celui qui a pas de numéro, l'excuse.
À la base, c'est plus un jeu divinatoire plutôt qu'un jeu de bar.
Alors ça peut être, c'est toujours les idées d'oracle, hein, c'est d'interroger les forces obscures pour avoir un éclaircissement sur le présent, mais c'est surtout une espèce d'encyclopédie visuelle, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont codées à travers des symboles. Il y a énormément de choses codées à l'intérieur de ce jeu. C'est pour ça qu'il est un peu
c'est quand même un peu
extraordinaire.
Il y a une dimension artistique dans le tarot, c'est assez
figuratif. Si on aime, c'est magnifique.
Ah oui, oui. Les images, même dans le tarot classique, avec lequel on peut jouer des parties à 5 avec l'appel au roi, etc. Les atouts sont beaux, l'excuse, chacun des atouts est très beau, le 19e plutôt, là. Enfin, le classique. Mais celui de Marseille est différent.
Ah ben, pour comprendre le tarot de Marseille, il faut se mettre dans l'esprit d'un premier chrétien féru de connaissances antiques. Donc c'est un mélange de christianisme initial, primaire, des premiers siècles et de connaissances assez pointues. Ésotérique. Sur la mythologie grecque, la religion égyptienne.
Ésotérique aussi.
Oui, alors selon les définitions, stricto sensu ésotérique, oui.
Et donc le tarot est une source d'inspiration importante. Je revenais sur le tarot parce que je me dis, bousculons carrément ce que nous avions prévu pour l'émission. Et tout de même, puisque Ombre est présente, demandons-lui de prononcer quelques mots. Peut-être pas tant sur le tarot, mais sur l'art en général. Ombre, vous êtes... on s'est mis d'accord tout à l'heure pour ne pas prononcer ce terme de illustratrice. Non, ça n'est pas ça. Plutôt
non, dessinatrice.
Dessinatrice.
Hein, dessinatrice. Dessin fantastique. Alors... je sais pas, on va parler de Tolkien, c'est un écrivain, c'est pas un dessinateur, mais c'est Tolkien qui m'a amené au monde de l'imaginaire et du fantastique avec les elfes, les nains, tout ça. Et donc moi j'essaye de reprendre cet univers à ma sauce, à ma façon, voilà.
Il y a un déclic littéraire à la base, plus qu'un déclic plastique, la découverte d'un plasticien, d'un dessinateur, alors.
Oui, c'est ça. En fait, j'étais très férue de lecture quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en baladant dans une bibliothèque, je suis tombée sur Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et là, c'était fantastique. Une merveilleuse rencontre. Et voilà. Ça m'a inspirée.
Et au niveau plastique, alors, des influences peut-être? Pas du tout.
Ben, les influences classiques, Jérôme Bosch, Dürer. Évidemment, Dürer. Okuzai aussi, les Japonais. Sinon, j'ai plus des références de BD et d'illustrations américains. au niveau des comics, Marvel, DC, tout ça. Pour Gérald, ceux qui connaissent.
N'est-ce pas la une aujourd'hui du 1 qui met un pape François.
Le pape qui n'a peur de rien.
En Superman.
François Superman qui fait exploser ses chaînes.
On joint les super-héros.
Voilà.
Et je vous interromps.
On sur les cartes de tarot.
Vous apprêtiez à dire pour ceux qui connaissent
Donc pour ceux qui connaissent les illustrateurs américains, on pourrait citer Gerald Brom, Bernie Wrightson. C'est vraiment des piliers, des bases du dessin. Ils ont travaillé pour DC Comics, etc. C'est vraiment des grands grands noms. Mais bon, c'est un domaine un peu spécialisé, pas vraiment connu.
Donc c'est pas du gothique, faut pas confondre avec le gothique. C'est loin du tatouage. En même temps, ça reste un art populaire, revendiqué comme tel.
Oui, enfin, ce qui peut faire penser à du gothique dans mon travail, c'est le fait que je travaille en noir et blanc, et il y a des figures qui sont assez sombres, assez mystérieuses, donc peut-être que...
Dessin torturé, et puis avec cette obsession de la surface à remplir, il y a un côté remplissage qu'on trouve dans le dessin d'art brut, dans le dessin
C'est le travail du motif, c'est-à-dire comment utiliser le noir, donc le noir et blanc, pour figurer de la matière, ce qu'on fait en général avec de la peinture, avec des aplats, tout ça, pour signifier une pierre, un végétal. Moi, je travaille sur le motif. Comment en noir et blanc réaliser une matière
et la répétition, l'accumulation,
exactement.
La variation
et
sur le motif.
Je travaille avec un tout petit rotring, ce sont des stylos avec des mines qui font quelques millimètres,
0,1, 0,2, 0,3.
Ça devient très 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 détaillé.
Sur des formats plutôt grands, petits, moyens.
Tous les formats.
Même petit, des grands, même monumentaux.
Le plus grand c'est 65-50 cm.
Déjà faut tenir. Format raisin, difficile à tenir.
5 mois de travail.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
C'est un travail d'orfèvre en fait. Voilà. D'où Dürer qui était, ne l'oubliez pas. Petit fils d'orfèvre.
Oui, ça se rapproche un peu du travail d'artisanat, tellement ça me prend du temps à produire, en fait.
Un côté obsessionnel.
Très obsessionnel, très obsessionnel. Je suis très obsessionnelle.
Alors les titres aussi, ce sont que des... Non, il y a un langage inventé aussi.
Non, en fait, oui, vu que je travaille sur un monde au sens premier du terme, c'est-à-dire autour de la nature, je crée des paysages, des formes, des créatures fantastiques, donc je recrée un monde et je me suis dit, donc...
Il faut aussi
aider par Tolkien, il me faut un langage pour vraiment aboutir le concept, en fait. Et je trouvais que le français, l'anglais, c'était beaucoup trop descriptif, jeune fille à la source, c'était beaucoup trop descriptif pour le monde imaginaire, et je veux que le public ait la possibilité de se faire sa propre petite histoire, en fait. Continue ce travail de l'imaginaire et se fasse sa propre histoire, sans avoir de référence, au contraire. Laisser aller son imagination dans son intimité, voilà. Et donc pas trop lui donner de pistes, en fait.
Après, on en plaque forcément, chacun fait avec son imaginaire et projette ses propres
préoccupations. C'est le but, en fait. C'est le but, c'est le travail.
On mettra quelques visuels peut-être sur le blog, et puis on référera
sur... J'ai un site internet, j'ai un Facebook à mon nom, Ombre. Voilà, c'est pas compliqué, on trouve.
Alors, il y a un dessin qui me reste en tête, notamment un crâne. Un crâne très ouvragé, c'est le seul, je crois, que j'ai vu sur les sites.
Oui, ça,
qui m'a fait penser à la tradition mexicaine.
Je l'ai fait tout au début, en fait, parce qu'il a fallu apprendre à dessiner. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'école d'art, voilà. Donc à un moment j'ai rencontré les rotrings et il a fallu apprendre à les maîtriser, à la technique. Et donc j'ai réalisé ce crâne, moi je le trouvais magnifique. Et je me suis dit c'est un bon exercice technique, en fait.
Et inventé, voilà. Tout est inventé ou...
Pardon?
Ce crâne est inventé, les motifs tout...
Non, je l'ai repris dans un livre, un Taschen que j'adore sur la chirurgie, en fait.
D'accord.
Et je me suis dit c'est un bon exercice technique, il y avait aucun, voilà, je débutais, en fait, donc il a fallu recopier des choses, en apprenant. Quand on apprend à dessiner, on recopie beaucoup.
Autodidacte aussi, ouais.
Voilà, exactement. Donc et après j'ai lâché les crânes, tout ça, pour vraiment aller dans mon univers, m'approprier vraiment les symboles, les formes, etc.
Je suis sur internet, là, sur la page, je crois, de Ombre, un site behance.net,
c'est ça,
behance.net/ombre. Et là, c'est vrai, les titres, je peux tenter d'en lire quelques-uns. Kemal, Meneirat, Saal, Edjir, Nunlir, Tezi, Te, Gavnok, Kari.
Magma.
C'est très inspiré, j'adore Magma.
Il y a quand même un tout petit peu peut-être de mexicain, d'espagnol, Dia de Muertos, je vois, et puis...
Dia de Muertos, c'est une commande. C'est une commande justement pour le jour des morts.
Voilà, les fameux crânes ouvragés,
décorés. Faire une expo pour le jour des morts. Donc il y a des crânes, il y a des bougies, mais c'était une commande. Donc c'est un peu à l'écart de ce que je fais rarement des commandes.
J'aurais volontiers proposé, mais Martin doit connaître, est-ce que ça pourrait illustrer des tarots, ces différentes figures?
Alors,
un peu,
non? Ça pourrait pas parce que c'est trop défini comme dessin. Le tarot de Marseille fait beaucoup de fautes de perspective, beaucoup d'erreurs de dessin pour qu'on puisse faire des associations d'idées et imaginer très loin. Donc, si, sur ce, il y en a qui sont... voilà, il faut que faut qu'il y ait des fautes de perspective et des erreurs. Et en plus, toutes les erreurs n'en sont pas parce qu'elles renvoient en fait à des codes. Enfin, le tarot de Marseille, c'est
côté rébus,
très,
c'est un peu,
très complexe. Il y a beaucoup de rébus, il y a beaucoup de...
Bon, il faut connaître, quoi. Il faut lire des livres de 500 pages sur le tarot marseillais.
Alors non plus, il faut pas lire des bouquins de 500 pages parce qu'après, on n'y comprend plus rien et on peut plus travailler avec. Si on intellectualise trop le tarot de Marseille, on peut plus travailler avec.
Et ça doit rester intuitif aussi.
Ça doit rester aussi intuitif.
C'est
simple
médium,
et riche.
Il faut être médium.
J'en sais rien, ça dépend ce qu'on fait avec.
Je m'apprêtais à demander combien de cartes, et en fait non, je crois que je vais laisser tomber parce que à l'instant je me demande si Martin aurait prononcé les mots ça va être compliqué ou ça va être difficile, parce que c'est précisément le titre que nous pourrions entendre maintenant. Ça va être compliqué pour faire une sorte de pause et puis permettre à Martin et Ombre de davantage
préciser. Ça va être compliqué, ça va être le single de l'album qu'on va mettre en avant, et normalement il va y avoir un clip aussi.
Ah. Wow. Donc on va en aller deuxième partie d'émission. On va davantage développer ces
tubes qu'on met en avant,
des projets à venir. Nous sommes toujours dans Spectaculaire, 14h et pile 25 minutes. Nous écoutons. Ça va être compliqué. Et nous continuons. Avec
Martin et ses antécédents. Ici présent.
C'est beau.
Avec Ombre.
Yeah.
Chérie, je dis pas non, je dis pas oui. On va voir ce qu'on peut faire déjà, et c'est pas l'enfer. Retirer la voiture de la fourrière. Ça va être un peu compliqué, chérie. Je dis pas non, je dis pas oui. On va voir ce qu'on peut faire déjà, et c'est pas l'enfer. Régler notre interdit bancaire. Comme une gamine. Ce qui me fait vraiment demander, c'est qu'une fois tu sois contente, et qu'au lieu de toujours aller, tu me dirais une fois merci.
Désolé, bébé. Ça va être un peu compliqué. Chérie, je dis pas non, mais je dis pas oui. Voir ce qu'on peut faire déjà, et c'est un peu l'enfer.
On ne va pas citer le pape, non, pas tout de suite.
Si, tout à l'heure.
Pas tout de suite. Gérald, oui, tu as raison, pourquoi pas une explication de texte, hein. C'était quoi cette chanson Martin que nous recevons, Martin et ses antécédents, nous écoutions, ça va être compliqué. Ça va pas être compliqué de parler de cette chanson, si, un peu.
Bah, vous voulez savoir quoi, vous voulez que...
Je sais pas, à quelle époque, est-ce qu'elle sera jouée? Là, j'ai entendu, il y a un concert à venir de...
Oui, on joue demain soir à la coopérative du Zèbre. Oui, c'est un spectacle de duo, donc elle y sera, il y a une succession de...
Malheureusement, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle travaillait.
Ah oui, elle essuie des verres au fond d'un café.
Oh, la pauvre.
Elle a bien trop à faire pour... oui, bah, si vous avez écouté les paroles, bah, c'est une chanson un peu comique sur la gonzesse qui est frustrée, qui gonfle son mec, parce qu'elle a pas la vie qu'elle veut, la vie qu'elle rêve, donc elle veut qu'il le fasse rêver, et lui, il renvoie toujours à des trucs un peu pragmatiques d'argent ou de garagiste. Et à la fin, bon, il se décide d'aller braquer sa mère parce que sa mère a de la thune. Donc, ils partent avec la thune, mais sa mère les dénonce aux flics, donc ils finissent en prison. Ils arrêtent de se prendre la tête parce que éloignés et chacun en prison, ils se rendent compte qu'ils s'aiment. Donc, c'est un beau message d'amour pour les couples.
Oui.
Y a-t-il d'autres messages dans ce concert, donc à venir demain, c'est une date unique.
Je suis un peu un groupe à messages, comme les gens savent.
Et un récit, puisqu'on a tout un déroulé d'histoire dans la.
Et un récit, donc des messages. C'est pas un message qu'il y a, c'est 5 putains de messages par chanson, quoi, minimum, quoi. Moi, je suis une boîte à vendre des messages, quoi.
Allez, alors quelques exemples.
Interprétation.
Hein?
Quelques exemples. Quel message? Donc, il faut s'aimer en couple. Il faut pas se prendre la tête. Quoi donc encore?
C'est un message stoïcien.
Écoute, profiter de la vie.
Le monde de soi en dépend.
Dans celui-là, comme message, c'est que en fait, c'est très facile de vivre à côté de sa vie, mais il y a un moment quand on est vraiment à côté de sa vie, c'est peut-être le moment où ça va se débloquer pour aller au centre de son existence. Ça, c'est assez profond quand même. Mm-hmm. Parce que ce couple, ils sont toujours à côté de ce qui se passe.
Ils sont perdus.
Ils sont à côté de ce qui se passe pour eux. Mm-hmm. Et quand ils sont vraiment mis en prison et éloignés, c'est là où ils retournent à l'essence de ce qu'ils sont. Mm-hmm. Et l'amour surgit.
C'est un peu dangereux comme.
C'est très dangereux. C'est très dangereux.
En fait, ça veut dire que le couple est impossible, puisque le couple doit être séparé pour se prendre conscience
qu'il
est.
Alors, tout le monde, c'est une proposition de couple. Au début, on voulait faire 19 archétypes de couple.
Ah ben voilà.
Pourquoi 19? Pourquoi pas 14 ou 59 ou 48?
Ils ont allé étiqueter, repérer.
Dans le tarot de Marseille, le 19, c'est les jumeaux symboliques. Hein, c'est Romus et Romulus. Donc, c'est un peu le double parfait, l'autre soi-même.
Ça est très conceptuel finalement. Hein.
Et alors les dates, donc il y en a une première à la coopérative jeudi 24 septembre.
Ouais.
Coopérative du Zèbre, où vous verrez peut-être encore exposer les photos de Benjamin Van Der Leek, du Maquis, qui ont déménagé pendant le concert. Et une belle sculpture de Gérard Visseur d'un parapluie qui s'ouvre avec un mannequin suspendu.
Ah oui, très très beau, exact.
Voilà. Et alors, soyons précis, où est-elle cette coopérative? Moi,
elle est sur les pentes en arrivant, en dépassant au bout de la montée de la Grande Côte, après le café. Vous arrivez après le café sur le plateau, sur la place, qui offre une vue magnifique sur Lyon, après les grands escaliers, les jardins. Vous allez à gauche et vous arrivez dans l'angle de la rue, à gauche, je ne sais plus le nom de la rue, à la coopérative du Zèbre.
De toute façon, on a vraiment besoin de gens qui s'inscrivent sur notre Facebook. Donc l'adresse est sur notre Facebook, Martin et ses antécédents. Donc il faut vraiment aller sur le Facebook. Il paraît que c'est très très important.
C'est très facile à trouver. Ici, il passe des choses bien en général.
À la coopérative du Zèbre?
Oui.
Certainement.
À des pots intéressants, souvent associatifs. D'ailleurs, Alphanzine avait fêté aussi. Avait fait un pot d'amitié là-bas pour remercier tous les donateurs de Kiss Kiss Bank.
J'entends ce nom.
J'étais venu ici aussi.
J'entends la coopérative. Je pense à un autre nom. Également, je crois une salle ou une galerie. Également un substantif, la menuiserie. J'ai cru comprendre que quelqu'un exposerait au mois de décembre. Ombre, bien entendu. Je fais allusion à vous. Hein, oui. Les dates sont-elles déjà précisées?
Donc c'est tout le mois de décembre. La menuiserie, c'est un local en fait de l'association Solidarté dont je fais partie, et ils mettent ce local à disposition pour les artistes qui suivent. Et c'est tout le mois de décembre. C'est 3 rue Carquilla. C'est sur le plateau de la Croix-Rousse. Et il y aura des permanences. Donc le vernissage, c'est jeudi 10 décembre, et je mettrai en place des permanences. Voilà.
Et seront donc exposés de nombreuses de vos œuvres, plusieurs.
Oui, je pense une bonne vingtaine.
Quel format ont-elles? C'est des
tous les formats. 24, ça 32, va de surtout. A4 jusqu'à raisin. Donc en passant par A3, il y a vraiment tous les formats.
Il n'y a pas du format Guernica là, le 7 mètres sur 3, non? C'est pas.
Non, c'est pas possible pour des raisons de production quand même. Oui. Disons que oui, vu que j'en produis à peu près un par mois, ça fait 12 par an, c'est vraiment pas grand chose déjà. Donc si je commence à faire des grands formats, je vais pas y arriver.
On le sait ça, Picasso il a mis combien de temps pour peindre Guernica? Ça a été assez rapide le truc?
Quelques mois quand même.
Oui, oui.
Il a fait beaucoup d'études préparatoires.
C'est bien ça, non?
Au musée Reina Sofia de Madrid, vous avez une salle à côté de la grande fresque, où il y a justement toutes les étapes de création.
Et c'est bien ça, non?
Qui ont été filmées d'ailleurs, et on voit les revirements, les repentirs, le changement, toute l'élaboration de la composition finale.
Et 7 mètres sur 3, hein, c'est le de tête, c'est les chiffres que je garde.
Une qui a été 3 mètres. Reportée sur le mur, qui est sur toile à la base, hein, il me semble. Elle était marouflée ou... C'est pas une vraie fresque.
Vous, Ombre, quelle est votre plus grande œuvre en termes de taille?
C'est un format raisin, 65-50. J'ai pas fait plus.
Mais avec un recring 0,1.
Oui, voilà.
Ça demande donc 5 mois de travail.
Voilà, exactement. Et puisque je suis quand même une artiste, on va dire, débutante, ça fait 5 ans que j'ai commencé à dessiner, il faut quand même que je développe mon univers, quand même assez largement. Et je pense que les grosses pièces, hein, c'est quand même déjà pour quand on a un univers déjà abouti, qu'on a déjà pu proposer pas mal de choses à côté, et on peut se dire, bon, je vais faire une grosse pièce comme ça.
Et puis les grosses pièces se vendent très mal. Parce qu'il faut aussi peut-être vendre de temps en temps, c'est quand même important.
Si je faisais une grosse pièce, oui, je pense que je demanderais 50 000 euros.
C'est toujours gratifiant de vendre des dessins avant Noël, par exemple. Voilà une idée cadeau originale.
Déjà, c'est gratifiant d'avoir des avis positifs du public, déjà. Déjà que le public reçoive bien les dessins. Moi, j'ai beaucoup de messages qui m'encouragent. C'est très, très positif. Et déjà, franchement, cette énergie-là, ça porte. C'est vraiment important. Voilà.
Et la plus petite de vos œuvres, un médaillon? Qu'est-ce que...
Non, parce que bon, faut quand même, c'est un A4, 21, 29, 7. Donc ça, c'est des formats, je mets 3 semaines quand même à faire un A4.
C'est de la broderie.
Exactement, c'est un peu de l'artisanat,
Et à côté, broderie, Pénélope. Ouais. Syndrome de Pénélope, comme beaucoup d'artistes.
Et alors, pour garder un peu le même vocabulaire, mais peut-être en changeant les idées, maintenant, quelle serait votre plus grande œuvre, non pas pour les dimensions, mais, et non pas peut-être la plus grande, mais la plus importante à vos yeux, disons celle dont vous êtes la plus, je ne sais pas, la plus fière ou la plus...
Non, il n'y a pas ce rapport, en fait. L'important, moi, quand je crée, c'est le moment de la création. Après, voilà, le dessin, il est fini, je le mets dans mon carton et j'y reviens plus, en fait. Ce qui est vraiment stimulant, c'est le moment de la création, c'est l'euphorie, c'est un moment vraiment très particulier. Et non, j'ai pas cet attachement au matériel, en fait, à me dire, oui, j'ai fait une grande œuvre. Non, je fais les choses, je les sens pas, enfin, voilà.
Vous arrivez de déchirer des
dessins ratés? Oui, je recommence beaucoup. Enfin, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, en fait. J'ai vraiment envie de faire un travail abouti, vraiment une réflexion sur la forme, les idées. Donc oui, je recommence souvent.
Alors vous placez, c'est dur de parler toujours d'art plastique à la radio, mais ouais, c'est des compositions assez complexes, avec des motifs très surchargés, une obsession de la surface, de remplissage quand même. Est-ce que vous placez d'abord des cadres, des canevas, des grandes lignes directrices de la composition, ou vous attaquez comme ça, comme certains artistes bruts peuvent faire, par exemple en partant d'un coin à gauche du support ou au centre, et puis se développer de manière quasiment automatique parce que
il y a la composition de l'image, hein, c'est-à-dire ça c'est des aspects techniques de la création d'une illustration ou d'une image, hein, donc équilibrer les formes. Mais en général, je fais un croquis très rapide d'un personnage ou vraiment de l'élément central. Hein,
parfois c'est
et après j'y vais comme ça au rotring, j'y vais directement.
Donc il y a une part de laisser aller et d'automatisme.
Oui, parce qu'on a beaucoup de surprises en fait quand on se laisse aller vraiment comme ça, c'est là où les surprises apparaissent et la créativité est là. Parce qu'il ne faut pas toujours essayer de brider sa créativité pour que les choses soient parfaites. Exactement. Il faut se laisser aller comme ça et bien souvent, j'ai de très bonnes surprises.
Mais ça, c'est une manière de travailler. Hein, certains artistes ne la pratiquent pas du tout. Ils savent déjà exactement ce qu'ils vont faire avant même. Et ils savent tellement bien, d'ailleurs, c'est le propre d'une forme d'art conceptuel ou d'art contemporain, qui délègue le faire. Donc la concrétisation matérielle de l'œuvre à d'autres, puisque ils n'ont pas le savoir-faire, ils ont l'idée, le concept. Donc là, c'est une autre visée, c'est un axe de l'art qui est intéressant, hein, qu'on trouve dans l'art brut, mais chez plein d'autres. Ouais. Le côté automatique, depuis les surréalistes, en passant par plein d'autres artistes.
Et dans la musique, est-ce qu'on trouverait ça, Martin, vous qui êtes présent ici, comment composez-vous, voilà, comment travaillez-vous?
Vous avez laissé aller de l'automatisme dans la musique.
Et la question,
moi, c'est bien simple.
Avez-vous déjà déchiré
des petits
partition
anges avec des lyres qui viennent, qui me font la musique à l'oreille, et moi je retranscris très scolairement.
C'est ça.
Très scolairement. Avec, alors, je sais jouer du piano qu'avec deux doigts, un doigt à la main droite, vous savez, comme les flics qui jouent de la machine à écrire. Donc, le petit ange me donne musique.
Et moi,
j'essaye de retrouver avec mon doigt en tapotant sur le piano, mais ça marche bien.
Note. Bah oui, on vient de l'entendre. Il y a côté cabaret, cabaret un peu débauché, mais cabaret quand même.
Non, mais sans chercher à plaisanter, moi, la question, j'aimerais vraiment la poser. Est-ce qu'il vous arrive de déchirer, est-ce qu'il vous arrive de vous dire pour cette chanson, non, en fait, on n'est pas bon.
Ça dépend, des fois, avec Clara, on a fait ce spectacle, on n'est jamais revenu en arrière. C'est-à-dire que tout ce qu'on a écrit, on l'a gardé, tout ce qu'on a composé, on l'a pris. On est rentré dans un espèce de processus, j'ai envie de dire magique, où si on commence à douter et revenir en arrière, on perd l'énergie et ça disparaît. Là, on était vraiment dans un bon mouvement et on a tout gardé. Il y avait pas de gras, quoi.
On est dans
que
le guidon.
De la viande, quoi. Alors, il peut m'arriver des fois de pas garder certaines chansons parce que quand je fais un spectacle, je réfléchis toujours à une évolution pas shakespearienne, mais presque. Hein. J'essaye qu'il y ait de l'humour, de la réflexion, des moments touchants. Je déteste les groupes, je hais les groupes qui ont qu'un seul morceau et qui le font 12 fois de façon différente. Ouais. Alors on a l'impression que c'est 12 fois le même morceau. Mmh. C'est insupportable, c'est un manque de créativité absolue. Alors si en plus ils chantent en anglais, il faut les abattre à vue, quoi.
On ne fera pas de parallèle avec les arts plastiques.
Et donc j'essaye vraiment de créer mes spectacles avec comme un spectacle de cabaret, mais à la base, vous savez, il y avait les caniches, après il y avait le striptease, après le magicien. Donc chaque numéro était très différent.
On avait la géante.
Ouais, on a des numéros de 3-4 minutes, mais on s'emmerde pas.
Quand
le spectacle dure 1 heure, on a vraiment plusieurs tableaux qui sont très différents, qui avec plusieurs émotions. Mais ça, c'est Shakespeare. Shakespeare nous a tout appris. Il y a toujours des personnages comiques, c'est-à-dire quand il y a Hamlet arrive. Il est super tragique avec son crâne, il nous fait pleurer. Puis après, il y a deux gardes alcooliques qui font des blagues de cul pour créer du contraste, de la variété. Donc, je peux ne pas garder certaines chansons, tout simplement. Je les adore, elles vont être très belles, mais il y a déjà d'autres chansons dans le même style, dans le répertoire ou dans le disque. Donc, du coup, ça fait un peu double emploi, quoi. Puis il y a certaines. Non, moi j'aime toutes mes chansons. Toutes mes chansons sont géniales, mais je regarde pas.
Il y a une patte, Martin et ses antécédents, Martin et le Garoudaz. Il y a une patte.
Alors il y a une patte dans les textes, mais après les musiciens font énormément de choses. J'adore les musiciens. Les musiciens sont vraiment très très talentueux. Un des grands plaisirs que j'ai à faire de la musique, c'est de rencontrer et de travailler avec les musiciens.
Donc là, l'esprit, on a écouté deux morceaux du prochain album en duo. On est encore dans l'esprit cabaret, cirque, etc.
Autour du couple. Alors là, c'est deux morceaux qu'on met en avant qui sont les plus faciles, on va dire, les plus mainstream, les plus populaires. Donc c'est les deux qu'on met en avant,
mais vous avez raison. Parce qu'en plus, il y a une histoire, ça s'inscrit dans une histoire de la musique populaire, parce qu'il y a une musique de cirque, déjà, qui a été faite spécialement composée pour le cirque. Et puis après, il y a des auteurs très connus. Et Michelin, par exemple, qui ont fait des morceaux autour du cirque, de l'inspiration du cirque.
Mais après, sur le disque, il y a aussi des musiciens de musique contemporaine qui sont venus jouer sur d'autres morceaux. Oui, mais toujours au service de la chanson, qui est un médium populaire et accessible. Mmh. Mais ça veut pas dire
un art majeur.
Ça veut pas dire que, en fait, si on écoute la section cuivre qui était sur le dernier morceau, c'est incroyablement écrit, quoi.
C'est donc Miss Goulash.
Nicolas Sidorov, qui était dans Miss Goulash, entre autres, qui est un très très bon arrangeur, quoi. Voilà.
C'est intéressant d'avoir déjà répondu à cette question que j'aurais pu lancer. Martin, y a-t-il une chanson que vous préférez ou que vous estimez être la plus grande ou je ne sais
et, celle qu'on va écouter, c'est celle que tu vas passer tout de suite après. Et alors là, c'est un peu paradoxal parce que c'est le seul morceau de toute mon existence où j'ai fait tous les instruments. Je suis un très mauvais instrumentiste, mais là j'étais en grâce et c'est un morceau de rock psychédélique sur La mort du loup de Vinnie. Ou Lamartine, c'est qui, Vinnie?
Oh, je sais pas. Un des deux.
Un des. T'as tort, c'est magnifique. C'est les summums de la poésie française. Mm-hmm. C'est très très bien écrit. Donc ça, c'est pas un de mes textes.
Ouais, mais
c'est un classique de la littérature française avec un espèce de rock ambiante psychédélique derrière. C'est un chef-d'œuvre.
Oui, mais alors zut, et moi il me semble que je viens d'entendre qu'il n'y a pas de chanson que je préfère, toutes j'ai de l'affection pour elle, et finalement il y en a une qui est la préférée. Hein.
Parce qu'il est seul dessus, et il est content pour une fois d'être tout seul. D'accord. Il en a marre d'être toujours entouré.
Mais c'est surtout parce que c'est la prochaine qu'on va écouter.
Ouais.
Et que rien ne vaut la prochaine.
Alors je la lance la mort.
Évidemment, sera encore moins bien que la prochaine.
Il met du son dans le studio, on n'entend rien. Sinon.
Ah ouais, mais alors La mort du loup, donc il est possible que ce soit vraiment, c'est un morceau énorme, hein, c'est ça, en termes de mégas, il fait 70 mégas. Est-ce que ça va bien être diffusé? On écoute les paroles ou on aura droit à une explication ensuite?
Bah, ouais. Écoute un peu, c'est La mort du loup. Ouais. C'est un classique de la littérature française.
Ah zut, ouais, ça... Je sais pas, je crois que le morceau doit être peut-être trop gros. 70 mégas.
C'est génial, vous allez pas entendre le meilleur morceau du monde.
Bon, on va peut-être essayer de caler ça.
Non, et... Alors si, je peux réessayer peut-être d'une autre manière, technique. Ouais, on va sûrement réussir, si ça va être possible.
C'est une chanson qui est longue, c'est celle qui fait 8 minutes?
Non.
Il y en a une de 8 minutes.
Elle est très courte.
Elle est très courte. Je sais pas, ça veut pas. Si on
va. C'est Radio Cadu.
Voilà. Il faut meubler.
Tout le monde aura reconnu. La technique, tout le monde reconnaît.
Ah non, mais on me donne des morceaux là qui sont compliqués.
Ça n'arrive pas qu'à Radio Cadu. Hein. Ça arrive aussi sur les grandes chaînes françaises du service public le dimanche matin, par exemple.
Non.
C'est arrivé encore hier sur le service public avec un début d'émission qui allait commencer à 10h du matin pendant la fin d'une émission à 9h, donc les pistes se mélangeaient. Ça arrive aussi régulièrement. Hein.
Avec quoi on pourrait... Si, allez, est-ce que ça va marcher? Je multiplie les tentatives.
Il faut dire, chers auditeurs, de patienter quelques instants, et que l'album étant en préparation, nous devons faire avec les moyens du bord technique, qui sont une clé USB, peut-être mal formatée par notre ami Martin, d'ailleurs.
Non, je crains que cela ne marche pas, Martin. Il va falloir diffuser autre chose.
On va écouter un autre morceau en attendant.
Ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre?
Ça s'appelle Meublé, donc puisque nous parlions du numéro 1 qui fêtait son 75, exactement comme l'émission spectaculaire, je vais pouvoir parler d'une rubrique vraiment très intéressante de ce journal, qui la plupart du temps est dessinée par Jochen Gerner, un artiste très intéressant, dessinateur et aussi artiste contemporain, qui a fait des travaux magnifiques sur la cartographie, notamment des cartes détournées, qui avait été exposées il y a 2 ans, je crois... à la Saline d'Arc-et-Senon, près de Besançon, la Saline royale de Nicolas Ledoux, qui font des expos d'art contemporain. Et Jochen Gerner avait exposé des travaux de cartographie détournée très très percutants. Et là donc il s'occupe de la rubrique dans ce journal qui est très intéressant sur des questions d'actualité diverses et variées. Donc il fait en général des résumés à base de dessins, d'illustrations type BD sur une question. Donc là, les formules de François, donc, puisque je rappelle le titre, c'est « Ce pape qui n'a peur de rien », qu'on trouve en kiosque tous les mercredis. Le précédent avait été consacré aux sunnites et aux chiites. Celui-là est sur le pape, mais il traite de vraiment toutes sortes de questions diverses et variées. Donc la mondialisation de l'indifférence nous a ôté la capacité de pleurer. Lampedusa, le 8 juillet 2013. Si une personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger? Vol Rio de Janeiro, Rome, 29 juillet 2013. La pédophilie est une lèpre présente dans l'Église et qui a atteint des cardinaux et des évêques. Propos recueillis 13 juillet 2014. La curie romaine est exposée aux maladies comme celle de l'Alzheimer spirituel, de l'indifférence envers les autres, de la rivalité et de la vanité. Vatican veut du 22 décembre 2014 à la curie romaine. Si quelqu'un insulte ma mère, il doit s'attendre à ce que je lui donne un coup de poing.
Le pape a dit ça.
De Charlie Hebdo, janvier 2015. Là, je savais pas.
Où est-ce qu'il l'a dit, ça?
Je sais pas où. Dans quel média? Pour être un bon catholique, il ne faut pas être comme des lapins. La paternité doit être responsable.
Bon. Oh. Allez, on a réussi.
Vol pour le Sri Lanka, 19 janvier 2015.
Tous les chemins.
Bien tendu, hein.
Tous les chemins sont mon chemin.
Merci.
Est disponible. Merci François d'avoir permis de préparer cet autre morceau. Tant pis, on ne peut pas écouter cette mort du loup, mais on essaiera une prochaine fois éventuellement de la diffuser. Ah, ben oui.
Bon, on va écouter autre chose.
Ben, tous les chemins sont mon chemin, extrait d'un album.
On l'a déjà écouté.
Garuda's Band, le retour sur Terre.
Alors, Garuda's Band, c'est mon groupe Side Project Rock'n'Roll.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je me plaigne, que je me lamente? Crois-tu que je vais m'abaisser à me demander ce que je fous sur terre? À me rabaisser ou à me prendre pour une merde? Non. Je suis libre de te regarder face à face et de chanter. Tous les chemins sont mon chemin. Où que je sois, je suis chez moi. Tous les instants sont le bon moment. Je suis toujours bon endroit. C'est tellement facile de se sentir culpabilisé, de croire qu'on a tout raté, que c'est de sa faute ou celle de chez Maquina. C'est tellement facile d'être complètement paumé, sans savoir où aller. Alors, tous les chemins sont mon chemin. Où que je sois, je suis chez moi. Tous les instants sont le bon moment. Je suis toujours au bon endroit. Ouais, tu crois que ça n'arrange pas les bouffeurs de cervelle, les politiques castrés, les publicitaires abrutis, les dictateurs aux idées courtes, les profs auto-blasés, ou même des fois, celui qui se dit ton pote, que tu te crois en trop, que tu sentes que tu n'as pas ta place ici, que c'est ta faute, que t'es trop con, ouais, que t'es trop con. Alors chante avec moi ce magnifique refrain. Tous les chemins sont mon chemin. Où que je sois, je suis chez moi.
Je suis chez moi.
Tous les instants sont le bon moment.
Le bon moment.
Je suis toujours au bon endroit.
Le bon endroit.
Comme je suis parfait. Il n'y a rien à rajouter. Est-ce qu'on pourrait seulement rêver de voir la réalité? Après, bien sûr, il faut savoir ce que tu veux et où tu vas. Quel chemin tu prendras? Est-ce que tu veux le pognon, le sexe, la famille, l'art, la gloire, le secret immémorial de la vie? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Où est-ce que tu veux?
Bon, alors écoutez, jusqu'à la fin, cet excellent morceau que, oui, nous l'avions diffusé en juin 2013, mais il est tellement bon ce morceau, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot. J'ai retrouvé l'adresse de la coopérative du Zèbre, c'est le 22 rue Jean-Baptiste Say. Donc tu indiquais, Gérald, il faut passer à droite, à gauche, tourner. Voilà, c'est ça. Allez, encore quoi, 5 minutes, parce qu'on ne va pas dépasser. Même si Pascal ne sera pas là à 15h, Pascal fera son émission en décalé. Il la fera de 16h à 17h, le blues des canuts. Il m'a même indiqué qu'il aurait un invité pour cette émission. Est-ce que je vais retrouver ce nom? Oui, je vais retrouver ce nom. Le temps que nous profitions donc de ces 5 minutes pour...
Faire des annonces peut-être?
Des annonces, oui.
Par exemple, des expositions. Nous n'allons pas faire de la publicité à la Biennale de Lyon. Pas pour l'instant. Enfin, je sais pas. Christophe, tu n'y es pas encore allé?
Non, je n'ai absolument rien
entendu. On dira peut-être deux mots quand même. Et puis des événements autour. Mais justement, dans les événements autour, il va y avoir des événements très très intéressants. Notamment la semaine prochaine, à Paul-Lyonnais. Pour ceux qui connaissent, l'association Geneviève Dumont, à Paul-Lyonnais, pas très loin d'ici, à 20 km, dans la banlieue. Il y aura un salon du livre d'artistes qui promet d'être très intéressant le week-end du 3 et 4, samedi et dimanche, avec des centaines de stands d'artistes qui présentent des livres d'artistes. Le livre d'artiste, et ben justement, c'est entre l'œuvre d'art, l'édition limitée d'ouvrages uniques au monde, on va dire, hein, qui sont souvent très réussis. Et je vous conseille d'aller voir, d'aller passer à Paul-Lyonnais pour ce salon du livre d'artiste le 3 et 4. À Grigny aussi, si vous avez le courage, ce samedi 26 à Grigny, une expo rétrospective de l'artiste Jean-Marc Paubel qui montre 30 ans de création. Il y aura des fusains de Marie-France Chevalier, des photos de Valérie Berge, etc. Des installations vidéo. Donc à Grigny, à la SCOF, un collectif d'artistes, SCO2F.
En tout cas, moi j'ai retrouvé le nom de l'invité de Pascal tout à l'heure, qui m'a demandé d'annoncer que l'émission serait bien à 16h exceptionnellement, avec un invité, le réalisateur du film To Me, That's the Blues. Je ne sais pas qui c'est. Écoutez donc les programmes de Radio Canu entre 15 et 16, et puis surtout à 16h.
Il y a aussi le blues.
Il y a également Méga Combi, il y a aussi Noise Pollution le vendredi à quelle heure, je crois c'est de 20h à 22h, et une excellente émission animée par un grand timonier, et puis je perds toujours le nom, un jeune padawan, je crois, un truc comme ça, il me semble.
Si vous avez envie de sortir. Ah non, on va laisser parler Martin.
Et
Martin,
si en hommage à Volkswagen, on écoutait Ego Duo.
Oui, on va finir avec ça, et puis avec une citation du pape. Mais d'abord, je voulais dire que je viens de recevoir la programmation des Bons Sauvages du programme du mois d'octobre et de septembre, qui promet d'être encore très riche. Je rappelle que les Bons Sauvages, c'est à deux pas d'ici, en face de l'embarcadère, mais côté Mulatière, juste après le panneau, sur la droite, quai Jean-Jacques Rousseau, d'où le nom des Bons Sauvages, que c'est ouvert du mardi au samedi les midis. Bien sûr, on ne fait pas de publicité hein, sur Radio Canu. Du jeudi au samedi les soirs. Qu'il y a une programmation vraiment très intéressante, très variée en termes de musique, à la fois du folk, de la musique du monde, de la chanson française, du jazz. On en reparlera puisque Michel Fernandez y jouera le 30 octobre et reviendra faire une émission pour présenter son nouvel album, Soledad. Et la vieille du monde qui était passée à la fin de l'été dernier, on les avait justement rencontrés au Bon Sauvage. Donc je vous invite à aller découvrir, ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu, où l'on mange très bien, où les gens sont sympathiques, un peu décentrés certes, mais c'est à 10 minutes à pied, en vélo, etc. Voilà, en bord de Saône.
On voulait donc faire cet hommage à Volkswagen qui le mérite bien, parce qu'ils sont un peu dans la difficulté, donc c'est important que
qu'ils ont besoin de soutien, là.
Des radios militantes comme Radio Canu,
oui, 200 milliards de bénéfices
perdus. Donc voilà, Volkswagen, si tu nous écoutes, c'est, on est tous avec toi. Das on auto. Est Radio Canu et on a un petit morceau pour toi, Volkswagen.
Et une citation du pape aussi. Tu peux glisser dans les affaires parce que le diable entre toujours par le portefeuille, c'est la porte d'entrée. L'or est venu d'accepter une certaine décroissance. Encyclique sur l'écologie, 18 juin 2015. La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. Encyclique sur l'écologie, 18 juin 2015.
Bah allez, écoutons Ego
Mobile.
Un très bon morceau.
Enfermé, je suis le roi du pétrole, je me sens protégé. Je veux être heureux.
Ego, ego,
oui, plusieurs morceaux en même temps, le générique, la fin des Gomobiles et puis la fin de l'émission. Je voulais peut-être moi des toutes petites annonces. L'Opéra de Lyon va faire la damnation de Faust, ce sera en octobre. On ira Gérald, toi et moi, puis on fera un compte rendu. On n'aura pas d'invité.
La semaine prochaine ?
Non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas. En attendant, Godot est donné au Célestin. Il y a une sorte de mois d'octobre Beckettien avec Premier Amour donné après En attendant Godot. Donc voyons si
avec
on peut
Samy
faire quelque chose. Exactement, Samy Frey pour Pierre.
One Man Show.
Et TNP, il y a beaucoup de choses aussi. Nous disons je voulais dire, invité.
Ouais, mais je voulais dire, précipitez-vous encore jusqu'au 27 septembre, voir la troupe du Levant, Benjamin Forel, notre invité de la semaine dernière, j'y étais.
Au théâtre.
Je
ne
vais pas en reparler aujourd'hui, mais allez-y. Il faisait un peu froid. Habillez-vous bien. C'est en nocturne le soir dans un espace absolument magistral.
Et ça au revoir tout le monde. Merci Ombre. Merci Martin. Merci. On vous retrouve, on vous retrouvera sur les pentes. J'ai cru comprendre, ou la Croix-Rousse. Ciao tout le monde. Bonne fin de journée et restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Bye.